France Musique.
Clément Rochefort, Les Grands Entretiens, France Musique.
Je m'appelle Frédéric Lodéon, je suis né le 26 janvier 1952 dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai été violoncelliste, je suis toujours chef d'orchestre et producteur délégué à Radio France. J'ai rencontré Rostropovitch, je me souviens, quand j'avais 17 ans, donc je jouais le concerto de Schumann. Il m'avait dit, bon, c'est très bien, pour l'instant, quelque chose comme tu es un petit poulet, il faudra que tu deviennes un gros coq pour jouer du violoncelle. Je crois que j'ai suivi le conseil un peu amplement même, peut-être.
Alors aujourd'hui, Frédéric Lodéon va évoquer l'une des figures qui a sans doute le plus compté pour vous, le maître absolu, Syslav Rostropovitch, devant qui vous aviez joué pour la première fois, il me semble, en 1969, lors d'une masterclass qu'il était venu donner au Conservatoire de Paris. Quel homme était-il? Comment il était dans la vie, Rostropovitch?
Drôle, il aimait s'amuser, il disait des plaisanteries. Par exemple, il avait aussi sa sévérité, quelquefois. Hein. Il a dit à un de mes copains, un gars qui est très doué, mais qui travaillait pas beaucoup, « Ah ben, mon cher, il faut travailler la main droite, parce que la main droite, ça marche pas vraiment, hein, c'est pas très bon. Par contre, la main gauche, non plus. » Voilà, c'était ça. Alors, on riait, c'était très humain. Et à la pause de cette leçon, ils sont partis, Rostropovitch et notre maître Navarra, ils sont partis dans un petit bistrot qu'il y avait à côté, et ils sont allés boire des vodkas, parce que Rostropovitch voulait absolument faire boire de la vodka à Navarra, qui était pas un bon buveur, il aimait pas tellement, quoi. Et ils sont revenus bien chauds, tous les deux, à tel point que Rostropovitch, en remontant dans l'escalier, a accroché un extincteur qui était accroché à un mur. Il l'a fait tomber, on a entendu un grand bruit. Là. Il s'est appuyé sur un extincteur qui est tombé dans l'escalier. Enfin bon, ce qu'on attendait, la sévérité qu'on attendait, c'est pas du tout ça qu'on a vu. On a vu un type assez déchaîné, très très libre. Et puis il était jeune à cette époque-là quand même. Et c'était vraiment une révélation, oui, c'est sûr.
Vous connaissiez déjà, avant qu'il vienne donner cette masterclass, on avait déjà entendu parler de Rostropovitch.
Ah oui, oui.
On avait entendu des disques, peut-être.
Oui, oui, c'est ça. On avait entendu des disques. On savait qu'il était venu dans les années 50 à Paris, qu'il avait joué 3 concertos de mémoire et d'affilée. Enfin, il y avait une légende qui courait déjà. C'est pour ça qu'on était très inquiets quand il est arrivé, parce que, oui, il y avait cette grande légende. Et puis, la vie différente de nos professeurs qui disaient, par exemple, dans le meilleur des cas, Navarra disait, oui, il est génial, mais il faut vraiment pas faire comme lui. Il faut vraiment. Et même Jean Hubeau disait ça. Je me souviens une fois, on était à Saint-Germain-des-Prés et puis il jouait des suites de Bach, dont la quatrième, qui n'est pas très facile. Le prélude est un peu vite, il peut devenir scolaire, on va dire. On jouait ça détaché, comme c'est écrit. Enfin, plutôt, il n'y a rien d'écrit, parce que Bach n'a pas vraiment mis de coup d'archet. Et on a entendu Rostropovitch arriver, jouer de manière invraisemblable, tirant tout l'archet sur la note du bas, et après un grand coup d'archet par 2 notes, et il terminait la mesure par une glissade, en plus, qui était strictement interdit à nous. Dans Bach, on ne glisse pas, on avait dit, on ne glisse jamais. Il faisait ça donnait une scansion incroyable dans cette église. Ça sonnait comme un orgue, brusquement. Alors que nous, quand on jouait, ça sonnait comme un exercice. Voilà. Et là, j'étais sidéré. Et Jean Hubeau, le cher Jean Hubeau, a dit, lui aussi, il a dit ça. C'est génial, mais il faut vraiment pas faire comme ça.
Thank you. Frédéric Le Déon, après cette première rencontre avec Rostropovitch, là c'est une grande histoire, d'abord de maître à élève, puis une grande amitié qui a commencé à ce moment-là. Vous avez retravaillé très rapidement avec lui ensuite ?
Pas tout de suite. Ensuite, je suis allé au concours Tchaïkovski l'année d'après. Et là, j'étais très très sémillant, très jeune, j'avais un joli petit smoking, nœud papillon. Les dames dans la grande salle Tchaïkovski étaient très très affolées par mon costume. Je trouvais ça très beau, faut dire j'étais français, donc on trouvait pas des costumes comme ça en Russie. Et les dames venaient écouter le concours avec leur cabas. Je me souviens très bien, elles avaient fait le marché. On voyait des marchandises qui dépassaient. Voilà, c'était la jeunesse. J'étais mignon, tout ça. Bon, et je joue la première partie, la première épreuve. Et je me souviens, il y avait une étude de Piatti. Et c'était très difficile. C'est une étude en octave et en tierce. Ça fait tim, padadam, tim, padadam, pam, 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 padadam. Et les Russes appellent ça falche, aïe, 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 falche, aïe, aïe. C'est-à-dire faux, aïe, 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 faux, aïe, aïe, aïe. C'est encore faux, aïe, 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 faux, aïe, aïe, aïe. C'est toujours faux, aïe, 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 faux, aïe, aïe, aïe. Bon. Et moi, j'avais pris ça. Et je joue ça plutôt bien. Sauf à la fin. À la fin, je rate un peu les dernières octaves. Et le public qui m'adorait, jeune petit français, c'était l'image de la liberté, tout ça, m'applaudit à tout rompre. Et moi, je me lève, je salue un petit peu, et puis avec la main, je fais comme ça, de droite à gauche, l'air de dire, oui, enfin, c'est pas terrible, c'est pas formidable. Et alors là, le triomphe a été total, parce que on m'a expliqué après, Rostropovitch m'a expliqué que jamais un Russe n'aurait fait ça, c'est-à-dire de reconnaître qu'il n'a pas été formidable, parce que les Russes jouaient leur carrière, leur vie dans ce concours. Et moi, je venais là, j'étais tout jeune, bon, si je passais, tant mieux, si je passais pas, j'avais le temps. Et Rostropovitch m'a expliqué après que le jury, lui aussi, habitué au concours très strict, enfin, à cette rigueur, et même cette compétition entre les membres du jury, qui voulaient chacun faire passer son élève, chacun voulait pousser son élève. Et Rostropovitch en premier, parce que Rostropovitch, lui, il était responsable de la carrière et du destin de ses élèves, de sa classe. Et pour lui, il fallait que le maximum d'élèves passent en finale. Sinon, c'était un drame. Pour moi, c'était pas un drame. Je rentrais chez moi et puis hop, c'était pas grave. On essuyait une larme, éventuellement, mais même pas. Je découvrais Moscou. Il y avait des lilas. C'était beau comme tout. Cette odeur d'essence, d'octane, bizarre. Les bagnoles roulaient avec un mélange assez extraordinaire, dans le sens étrange, quoi. et puis on découvrait. C'était merveilleux, c'était un romantisme. Et je passe quand même, bon, je passe en deuxième épreuve, parce que j'avais fait quand même, c'était pas mal. Et en deuxième épreuve, je me souviens que j'ai donné vraiment le maximum. Et là, Rostropovitch m'a barré. Il a fait vraiment un argumentaire, il a donné un argumentaire au jury, disant que je jouais de manière trop détendue, trop comme ça, un peu évaporée, qu'il y avait quelques fausses notes et tout ça et tout ça. Et donc il a combattu contre moi pour que je ne passe pas, parce que lui, il avait vraiment besoin de chaque place en finale pour ses élèves. Moi, aucune tristesse, j'étais à l'hôtel Rossia, après avec un certain Grigorian, qui n'avait pas eu le premier prix, il pleurait, mais il avait eu un très beau prix, je crois que c'était le deuxième. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Moi, je ne suis même pas passé en finale. Mais je suis déjà très content. Je suis allé en deuxième épreuve. J'étais applaudi. C'était formidable. Il dit, ouais, mais toi, tu vas rentrer en France. Tu auras une grande liberté. Moi, on va m'envoyer enseigner à Novosibirsk. Moi, il n'y a pas de carrière. La première place, c'est ça qu'il faut. Et le premier, c'était David Geringas, grand violoncelliste, qui avait gagné, mais vraiment tout à fait normalement. C'est-à-dire, il était absolument affûté. C'était fantastique. Il avait joué le concerto de Shostakovich. Le premier, c'était monstrueux. Thank you.
Quelques années après cette expérience, on va dire relativement malheureuse, du concours Tchaïkovski, vous retrouvez Rostropovitch en 1977. À ce moment-là, il est président du jury du concours qui porte son nom. Alors cette fois, les choses se sont un petit peu mieux passées, Frédéric Ledéon. Mais le concours n'avait pas lieu à Paris à l'époque.
C'était à La Rochelle, c'était formidable comme ambiance, au bord de la mer, comme ça, il y avait la marée où Rostropovitch était très souvent pour manger des tonnes de fruits de mer. Bon, et dans cette ambiance-là, il y a eu, dans ce concours, des gens qui étaient contre moi, il me l'a expliqué après, notamment Xenakis. Il faut dire que j'avais dit à la radio, peu de temps avant, que Xenakis n'entendait rien, que si on voulait déprimer tout un immeuble, il fallait jouer son œuvre de violoncelle seule qui était imposée, là. Donc il a dû le savoir aussi. Il y avait Berriot, qui m'aimait pas trop non plus. Et puis, il y avait, heureusement, Henri Dutilleux, qui était au jury, qui était pour moi, et Zara Nelzova, grande violoncelliste d'outre-Atlantique. Et Rostro m'a dit, après, il m'a dit, voilà, il faut que tu saches qui sont tes amis et tes ennemis. Il m'a cité. Et il s'est battu, là, pour que j'aie le prix. Parce que, pour lui, il avait été coupable à Moscou, mais il était obligé, il me l'a dit après. Et là, il voulait absolument, puisque j'étais dans ce concours, j'avais joué l'année précédente, en 76, avec l'Orchestre de Paris, et Colin Davis, les variations de Tchaïkovski, et je vais risquer ma peau, aller dans un concours, on fait pas ça normalement, mais c'était l'amour de Rostro, c'est pour être avec lui, pour lui prouver ma passion, et puis pour faire le maximum. Et donc, là, il y a eu l'inverse, il a retourné la situation, il s'est battu lors de la délibération pour que j'aie ce premier prix, parce que à ce moment-là, d'autres voulaient pousser un autre violoncelliste plus spécialisé dans la musique contemporaine à l'époque, Louis Claret. Et Rostro disait non, c'est pas, voilà, moi mon tempérament, ce que j'aime c'est l'Odéon, c'est le gars qui y va à fond, quoi. Donc il a dû faire un équilibre, finalement il y a eu deux prix, ex aequo.
Clément Rochefort, Les Grands Entretiens, France Musique.
Alors revenons sur les cours avec le maître, avec Slava justement. Donc vous commencez à travailler avec lui. Alors comment ça se passait régulièrement? C'était où? C'était chez lui, à Paris?
Pas très régulièrement, parce qu'il était très très occupé évidemment. Il a fait 30 fois le tour du monde déjà à cette époque-là. Il avait tellement de carrières, c'était absolument incroyable. Et donc un jour je lui demande une leçon. C'était à la radio justement. On nous prête un studio. Nina Aprolev, sa traductrice vénérée, était là avec nous. Et là, il me fait travailler le deuxième concerto de Shostakovich. Et parce qu'il croyait beaucoup au deuxième concerto de Shostakovich, alors que moi, pas beaucoup. J'avais dit, oh, le premier est génial, mais alors le deuxième, alors il était un peu fâché. J'ai dit, je vais te le montrer. Alors, il m'a fait travailler ici même à Radio France. Et puis bon, j'étais toujours pas très convaincu de l'intérêt de ce concerto. Je pense toujours que le premier est bien plus intéressant. Mais enfin bon, lui, il était tellement proche de Shostakovich qui voulait vraiment, il l'a défendu tant qu'il a pu, ce qui n'a pas d'ailleurs créé une carrière pour ce concerto jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà. Et puis de temps en temps, comme ça, je lui demandais un conseil. Une fois, je suis allé le voir et je lui ai demandé, par exemple, des conseils pour la vie en général, parce que Rostropovitch, pour moi, c'est un artiste violoncelliste exceptionnel, chef d'orchestre vraiment très cultivé, pianiste, tout ça. Mais c'est un être humain, c'est un de mes pères spirituels. C'est vraiment, je disais toujours, je lui dis un jour d'ailleurs, j'aurais voulu avoir un père comme toi. Il me regarde sévèrement, il dit, tu veux dire un grand frère? Tu veux dire un grand frère? C'est vrai que je le vieillissais un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il avait 46 ans quand je lui ai dit ça. Bon, et moi j'étais un gamin. Une autre fois, il m'a fait travailler le concerto de Lutoslavski. Il voulait vraiment, après le concours Rostro à La Rochelle, il voulait vraiment que j'apprenne le concerto de Lutoslavski. Et j'étais venu avec Daria, donc ma première femme, et il dit, donc tu reviens dans 10 jours. Et Daria dit, ah ben non, parce que ça va être difficile, on joue ensemble, on a 8 concerts d'ici là. Et moi, tellement fou de passion pour Ostrov. J'ai dit, non, ça va aller, ça va aller. Je me vois encore dans le midi de la France, dans le sud, dans le Gard exactement, à Sommières, où Michel Garcin, patron des râteaux, avait une maison de vacances. Et j'avais joué à Sommières, évidemment, le festival de Michel Garcin. Et pendant la sieste, je m'étais éloigné de la maison pour jouer sous un arbre fruitier, je me souviens, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Et je grattais, si j'ose dire, mon concerto de Lutoslavski. J'avais punaisé la partition sur l'arbre. Et puis je travaillais et je suis revenu 10 jours après et je le savais, pas par cœur quand même, mais lui-même ne jouait pas par cœur cette œuvre-là, c'était monstrueux avec des quarts de ton, etc. Mais une œuvre formidable. Et je lui ai joué ça et je peux dire qu'à un moment donné, il m'a dit, ah non, là c'est 5 temps, là. Et j'ai dit, c'est comme ça, là il y a 6. Parce qu'il comptait en russe, il dit, j'ai dit, non, regarde, c'est ça. Et il a dit, ah oui, c'est vrai. Même lui, il lui arrivait d'avoir un doute, tellement c'était difficile. Et ce jour-là, je me souviens très bien que je lui avais apporté des cadeaux, parce que la première fois, après le concours, quand il m'avait expliqué qui avait voté pour moi, qui avait voté contre moi, et il avait débouché 2 bouteilles d'Asti Spumante, ce qui est un vin italien pétillant un peu sucré, et il avait mis sur la table des escargots en chocolat et du saucisson. Et ils mangeaient alternativement l'un et l'autre, et on buvait cette Asti Spumante. Moi, je dis, j'étais pas très très habitué à boire en ce temps-là, et je suis ressorti de là, mais vraiment d'équerre, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment très fatigué. Et je me souviens que lui, il partait en Corse le lendemain. Il a joué avec l'orchestre de Cannes, Philippe Binder. Et les copains de l'orchestre m'ont raconté qu'il avait joué les variations de Tchaïkovski. Il n'y avait pas une note à côté, que c'était incroyable. Et une violoncelliste qui jouait non loin de son podium m'a dit, quand il a joué le ré grave dans la variation lente, à la fin, j'ai senti, il y avait le sol qui tremblait tellement la puissance de son violoncelle là. Et puis en plus, il a rien raté dans l'aigu non plus. Et c'était incroyable. Et moi, j'ai mis 3 jours à me remettre de cette invitation à boire et à manger. Donc quand je suis revenu pour étudier le Lutoslavski, je lui ai apporté 2 bouteilles de champagne bien choisies, une grande plaquette de saumon fumé, des cornichons mal au sol, et il m'a fait les gros yeux encore. Il aimait bien jouer, il aimait bien faire l'acteur. Hein. Donc il m'a fait les gros yeux, il a dit « Ah, Frédéric Tchik !» Il m'appelait Frédéric Tchik. Frédéric Tchik, ah non, faut pas, plus jamais de cadeaux comme ça. Alors il part à la cuisine avec les cadeaux, et il s'en va avec son air fâché aussi. Et j'entends qu'il dit à sa femme, Galina qui était là, « T'as vu ce qu'il nous a apporté, Frédéric Tchik ?» Il était tout content en fait, mais il m'avait fait le plan, il m'avait dit « Plus jamais, hein, plus jamais ça, pas de cadeaux, voilà. »
Après le concours, Frédéric Le Déon, Rostropovitch vous a ensuite invité à vous produire à ses côtés.
Alors après le concours, effectivement, quand j'ai gagné ce concours, il m'a invité, moi, à Washington en 78, et ça a été absolument grandiose. Bon, j'ai fait 3 fois le Dvorak sous sa direction. Alors la première fois, il m'a dit, son air sévère qu'il aimait bien prendre, ah, « À toi, Frédéric, faut pas trop accélérer la fin de ta gamme, là, parce que pour faire entrer mon orchestre, c'est trop difficile, garder la tempo, là. » Bon, très bien. Deuxième concert, il dit... D'abord, il râle, deuxième concert, parce qu'il y avait de la neige, et il y avait 3 place vide devant, ici à Paris, on n'aurait pas, dans une tempête de neige, on dit c'est normal. Il dit, mais c'est incroyable, à Moscou, même avec moins 40, il y a toujours, toutes les places sont prises. Je dis, ouais, mais cela va, ici c'est l'Amérique, mais bon, c'est déjà beau, il y a 3 places vides, enfin, il fait un peu son cinéma, et il boude un peu. Et puis, troisième concert, alors là, il dit, ah, Frédéric Tchik, c'est ta meilleure concert. Et puis, il dit, mais viens voir quand même. Alors, il m'amène dans son petit bureau, et ma femme, Daria, était venue aussi pour m'entendre de France. Et on arrive dans le bureau, j'ai dit, ah là là, il va me sortir la partition pour me montrer que là, j'ai pas bien fait. Effectivement, il ouvre un placard, où il y avait plein de partitions, et je vois avec horreur qu'il sort la partition de Dvorak. Mais il la pose fermée sur la table, sur son bureau. Et derrière les partitions, il écarte les partitions. Il y avait du gin, de la vodka, il y avait du tonic aussi, il y avait du vin, il y avait toutes sortes de trucs, du whisky. Et voilà, il dit, ah, l'Odéon Chic, dernière leçon. Et il remplit un verre énorme de vodka pour moi, pour Daria, qui est une femme qui ne buvait pas beaucoup non plus. Et puis pour lui, bien sûr, il dit, alors voilà, dernière leçon. Et il descend le verre d'un seul coup.
Cul sec.
Et moi j'essaye et je tousse au milieu du verre. J'arrive pas. Et Daria, qui est d'origine ukrainienne, elle aussi, elle descend le verre. Comme voilà, ukrainien et russe, ils se sont bien entendus. Hein. Et moi, c'est moi qui avais l'air d'un bébé, à ne pas pouvoir descendre d'un seul coup. Et quand même, j'arrive à la fin du verre. Et là, il se tape sur la poitrine, il dit, tu vois l'Odéon Tchik, tu vois Frédéric Tchik, là maintenant c'est autre chose. Voilà, comme ça, c'est autre chose. Alors, explication. Il trouvait que je jouais très bien, mais il trouvait que j'étais peut-être un tout petit peu trop réservé, que j'avais une attitude, d'ailleurs même, souvent il m'avait dit, mais pourquoi tu me vouvoies, il faut me dire tu. Moi je disais, c'est par respect, et là il m'a dit, maintenant tu me dis tu, hein, Frédéric Tchik, maintenant c'est autre chose. Alors avec ce grand shot, comme on dirait, de vodka, ben je l'ai tutoyé à ce moment-là, je l'ai embrassé, puis voilà, puis je suis rentré un peu tristement en France, après ce moment de rêve. Dernière leçon, c'était, bon, c'est bien d'être strict, mais pas, il faut pas être trop les pieds en dedans, quoi. Il faut pas être le monsieur gentil garçon à cravate qui fait bien son boulot, mais en même temps, il faut être un peu plus communicatif. Et je crois que c'était véritablement une leçon ultime et très affectueuse, comme d'un père, quoi. Alors évidemment, certains ont dit qu'il aimait bien ça. Moi, je me souviens d'une discussion sur Glazounov. Je l'interviewais à la radio et j'ai dit un peu trop facilement, alors on va entendre le chant du ménestrel de Glazounov. J'adore le chant du ménestrel, c'est tellement russe et Rostro le joue tellement bien. Bon, alors il y a des enregistrements qui subsistent de ça, heureusement, et je trouve que c'est vraiment une carte postale russe. Et j'ai dit un peu légèrement, ah oui, alors Glazounov, c'était un gros alcoolique, hein, n'est-ce pas? Et Rostro qui me regarde, hein, toujours un peu sévèrement, comme ça, qui dit, alors, on va recommencer. Glazounov, c'est un très grand compositeur russe, et deuxièmement, comme tous les Russes, il aimait boire. Je lui dis, oui, maître, vous avez raison. Bon, voilà, avec ça, c'est un sujet qui était un peu sensible, bien sûr, puisque on lui reprochait ça en France, quand on voyait sa contenance, les gens étaient affolés. Enfin bon, je souhaite à beaucoup de gens très sobres de jouer comme Rostropovitch jouait, même dans ses jours les plus faibles.
c'est avec Mstislav Rostropovitch que se referme ce 4e épisode des Grands Entretiens de Frédéric Lodéon. Mstislav Rostropovitch qu'on entendait dans le final du concerto pour violoncelle numéro 2 de Dvorak, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Rendez-vous demain pour le 5e et dernier épisode des Grands Entretiens de Frédéric Lodéon. Une émission réalisée cette semaine par Perrine Mingui, avec Éric Boisset, Pierre Monteil, Solal Mazran et Céline Tranouvel. Rendez-vous sur notre site internet francemusique.fr pour y retrouver le détail des morceaux diffusés aujourd'hui, le lien vers la réécoute et le podcast de l'émission.
France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.